Vous êtes sur RTL.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL. Jérôme Florin.
Et on parle cinéma, livres et musique aujourd'hui avec BLM Bootsock, Martin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. F.
On commence avec les secrets de producteurs avec vous Stéphane. Secret de producteur du jour est la preuve que les idées reçues sont souvent fausses, hein, puisqu'on dit souvent que Dominique Farrugia fait de la comédie, mais pas seulement. Il s'intéresse à tous les cinémas. Hein. La preuve avec Vidocq. Vidocq, c'était produit par Dominique Farrugia.
Oui, version grand spectacle des aventures d'Eugène François Vidocq, ancien bagnard devenu chef de la police, le voici en 1830, confronté à un mystérieux alchimiste, redoutable tueur masqué.
L'alchimiste serait à la fois un tueur et un savant. Pour les habitants du temple, tous les meurtres non résolus ont été commis par lui. Certains disent qu'il n'a pas de visage, d'autres disent qu'il a tous les visages. D'autres disent encore que son visage est un miroir et que ce miroir aspire les âmes.
Et un jour, je ne sais pas pourquoi cette idée me vient en me disant « Il y a quelque chose à faire autour de Vidocq, c'est un personnage, etc. etc. » Et j'avais lu « Le vol des cigognes » de Jean-Christophe Granger, premier roman. Je le confie à Berberian en disant « Tiens, on devrait faire un film là-dessus. » Et il est parti avec le bouquin chez Alain Sard. Des histoires de cinéma, tout ça.
Oui, sauf que Dominique Farrugia a de la suite dans les idées. Il tient à son projet et il va s'entêter.
À l'époque, Jean-Christophe n'était pas encore le Jean-Christophe Granger des Rivières Pourpres. Donc on commence à travailler là-dessus. Et on cherche un réalisateur. Et je me rappelle, j'appelle Yann Kounen, il n'était pas chaud pour le faire. Et j'avais connu un type qui était le roi des effets spéciaux à l'époque, qui s'appelle Pitoff, qui vit aux États-Unis maintenant. Je lui dis, voilà, et si on faisait un film comme ça? Il me dit, oui, mais on va le faire en numérique.
Je connais désormais le secret du monstre. Son miroir est vivant. Le masque n'est qu'un capteur d'énergie. Une pompe, en quelque sorte. L'alchimiste vole les âmes de ses victimes au moment précis où il les tue. Il les emprisonne grâce à son masque et s'en nourrit pour ne jamais vieillir.
On va avoir la première caméra numérique. Donc on est, avant Star Wars, le premier film tourné en numérique. Mais pourquoi Star Wars n'a pas fait en numérique directement? Parce que la caméra ne marchait pas. Et qu'on a eu un bordel noir, la caméra chauffait, elle tombait en panne, on n'avait pas de seconde, les objectifs rentraient pas.
L'alchimiste n'utilise le sang des vierges que pour fabriquer le verre de son masque. C'est la pureté de ce sang qui lui donne la vie. Si j'ai raison, je sais maintenant où trouver l'alchimiste. Le tueur ne fabrique pas lui-même son masque, il en prépare seulement les matériaux. L'alchimiste a un complice, un artisan du verre, et je sais où trouver cet homme.
Et puis on voyait des rushs. Horrible, parce que c'était de la vidéo et ça ressemblait à un téléfilm de la SFP des années 80, du tout début des années 80. On était dans les Carpentiers presque, hein, tu vois. On était déprimés. Pour l'époque, c'était totalement dingue. Aujourd'hui, ça semble tellement évident, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne tourne plus en pellicule. C'était une aventure dingue.
Donc de la technologie, hein, Stéphane, mais aussi des acteurs en chair et en os. On a entendu Gérard Depardieu là à l'instant.
Oui, c'est lui qui joue Vidocq, il apporte sa démesure et sa finesse au personnage, élément dantesque supplémentaire dans un projet déjà démesuré.
Quand ton premier jour de tournage, tu tournes au dernier étage du Panthéon, t'as la place du Panthéon prise avec tes camions, et t'as Gérard Depardieu qui te dit « Allez, viens prendre un petit déj avec moi, Dominique », et qui mange de l'andouillette et du vin blanc dès 7h30, tu te dis ouais, « on fait du cinéma ».
On sent dans quelle embrouille tu t'es foutu. Je pourrais pas te couvrir longtemps, moi.
C'était il y a 2 semaines. J'ai reçu une lettre avec de l'argent. Je devais simplement glisser les peignes dans le chapeau de Belmont, puis dans celui de Veraldi. J'ai jamais su qui m'a payé pour ça.
Et les lettres? Il n'avait rien de menaçant.
Menaçant?
Oui. Elles n'étaient pas écrites avec du sang.
Il est généreux. Il est drôle. Avec Inès Sastre, pour elle, c'était parfois difficile, puisqu'il lâchait des caisses à moteur. Et elle était obligée de dire « on arrête, on peut plus. »
Bref, Depardieu, on le sait, hein, est une nature, on le comprend, mais parfois, bah, la machine se grippe.
Il arrête de tourner, il avait un break de 6 semaines, donc il est parti, il dit « oh, je dois avoir une angine de poitrine, quintuple pontage ». Il revient au studio, il ouvre la porte du studio et il crie « même pas mort ». Voilà, Gérard Depardieu.
C'est une vengeance mûrie, tout ça sonne, une espèce de justice du ciel, une justice divine.
Mais ce tueur... T'as vu comme il a disparu dans sa cape?
Juste une astuce de magicien.
Et le masque?
Le masque aussi pourrait coller avec une vengeance.
Je ne vois pas.
Un miroir. Comme s'il était temps pour ces hommes de se regarder en face.
Oh Gérard, t'en rencontres pas 50 des comme lui, t'en rencontres un dans ta vie. On se voit peu, quand on se croise, on s'embrasse. Je pense qu'il m'aime, je l'aime d'autant plus. C'est pour moi le plus grand acteur français.
Alors citons aussi André Dussollier et Guillaume Canet, pour qui l'expérience, on va le dire, a été un peu moins agréable dans le rôle d'un écrivain à la recherche de Vidocq.
C'est un moment important pour Guillaume. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup ce film. Je pense qu'il n'a pas été dirigé de la meilleure manière. Et Dieu sait que j'aime Guillaume.
Vidocq, tu l'as déjà rencontré?
Non, je lui avais juste écrit. Il avait accepté de revoir avec moi certains détails sur sa biographie.
Une biographie?
Bien plus. Un vrai livre. Un grand livre sur Vidocq. Il faut que je trouve son assassin pour révéler son nom dans mon dernier chapitre. C'est comme ça que je vengerai Vidocq.
Le film a beaucoup, beaucoup marché à l'étranger. On fait quand même 1 million, pratiquement 900 000 en France, ce qui n'est pas rien. On est sorti une semaine après le 11 septembre, ce qui n'est pas. Le film a ses faiblesses, mais c'est des faiblesses qu'on retrouve dans tous les films de cette époque.
Vidocq, le film de Pitoff à revoir en DVD chez TF1 Vidéo, en complément tient aussi de L'Empereur de Paris de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, film là sorti en 2018.
Et la musique, ce me semble, c'est Bruno Coulet.
Grand compositeur de musique de film.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Je me tourne vers vous Bernard Lehu.
Oui.
Donc vous nous emmenez ce matin visiter votre grande bibliothèque au rayon polar, s'il vous plaît. Alors on a du grand, du culte, des polars devenus des classiques et c'est bien le cas. Avec « Pars vite et reviens tard », le 9e roman de Fred Vargas, publié il y a déjà près de 20 ans, à l'automne 2001.
Oui, déjà très apprécié des amateurs du genre, Fred Vargas allait rencontrer un immense succès avec cette nouvelle enquête de son flic fétiche, le commissaire Adamsberg. « Pars vite et reviens tard » commence à deux pas de la gare Montparnasse, où un personnage pittoresque, comme Vargas les aime, Joss Le Guern, exerce le curieux métier de crieur de nouvelles. Il clame les petites annonces, les déclarations d'amour ou les réflexions philosophiques déposées anonymement dans une urne et accompagnées d'une modeste rémunération. Fred Vargas nous avait raconté à l'apparition de Pars vite et reviens tard d'où vient cette figure du crieur.
Mais je sais pas, c'est ça le problème. Au début de chaque livre, j'ai toujours une idée qui passe dans ma tête et dont je voudrais me débarrasser parce que je vois pas quoi en faire. Pourquoi je vais m'énerver sur ce truc qui ne donne rien? Donc le crieur, ça faisait 4 ans que je l'avais dans la tête et que je le repoussais pour faire une autre histoire. Et puis comme il voulait pas s'en aller, je lui dis bon, bah, puisque t'es là, je vais m'occuper de toi. Le livre a vraiment démarré de ça, sans intrigue policière, sans crime, sans rien. Et il fallait bien que je m'occupe de ce type puisqu'il voulait pas s'en aller.
Et vous procédez toujours comme ça? Ça part d'abord d'un personnage ou d'une situation avant l'intrigue elle-même?
Toujours, c'est ce que j'appelle la mouche. J'ai une mouche qui me rentre dans la tête et je ne sais pas quoi en faire. Je dis laisse tomber, ça n'a aucun intérêt, je ne pourrai jamais construire un roman policier là-dessus. Donc je la chasse et elle revient.
Donc ce crieur de nouvelles s'est imposé.
Alias la mouche, donc.
Voilà, il s'est imposé à Fred Vargas qui n'avait plus ensuite qu'à imaginer l'histoire qui allait devenir Pars vite et reviens tard.
Oui, dans l'urne du crieur sont déposés d'inquiétants et sibyllins messages et sur les portes des appartements apparaissent de mystérieux chiffres 4 inversés peints en noir. Autant de signes annonciateurs en réalité du retour en plein 20e siècle de la peste à Paris. On découvre les premiers cadavres, la psychose affole la ville. Alors près de 20 ans plus tard, bien sûr, la lecture de Pars vite et reviens tard résonne de façon très troublante à l'heure du coronavirus. Heureusement, le commissaire Adamsberg va mener l'enquête et c'est à partir vraiment de ce livre et de son immense succès que le flic fétiche de Vargas entre dans la légende du polar.
Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est tout ce que je ne suis pas et que j'aimerais être si j'avais été quelqu'un d'autre. Il est lent, il est nonchalant, il est rêveur, il est contemplatif, il n'est pas d'une efficacité extrême. Il me repose par son calme, par sa lenteur, par sa manière, par son système de pensée qui diffère totalement du mien. Ce type me plaît parce que, pour le décrire, j'essaye d'imaginer exactement l'inverse de ce que j'aurais fait.
Partez vite, rejoindre le rêveur, mais toujours perspicace Adamsberg, et vous reviendrez tard dans la nuit, envoûté par la lecture du plus fameux des polars de Fred Vargas, Pars vite et reviens tard, est publié chez Viviane Ami ou en format poche chez J'ai lu.
Merci beaucoup Bernard Lehu, Anthony Martin. C'est l'heure de notre pépite musicale du jour, on vous écoute.
Alors je vous propose un refrain qui donne envie de sortir et de flâner le nez au vent. Je l'ai trouvé dans le grand répertoire américain de la chanson, c'est le classique I Love Paris, écrit il y a 60 67 ans par l'immense auteur-compositeur Cole Porter. C'est une chanson qui est née à Broadway dans la comédie musicale Cancan, qui avait pour décor un cabaret parisien de Montmartre à la Belle Époque. Il y a eu ensuite un film avec Sinatra. C'est un des morceaux les plus repris de l'histoire de la musique. Voici la version qui nous intéresse en 2008 dans une publicité pour les aéroports de Paris. On découvrait 30 secondes de ce standard interprété par Vanessa Paradis. On trouve parfois des pépites dans la pub. En réalité, la chanteuse avait enregistré la chanson dans son intégralité. Vanessa Paradis chante du Cole Porter, I Love Paris.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.
Ça fait du bien. Vanessa Marie. Paradis ouais. Reprend I Love Paris, signé Cole Porter. Vanessa Paradis qui rêve depuis longtemps d'une comédie musicale. Elle a adoré enregistrer cette version. Elle l'avait d'ailleurs intégrée à un best-of qui est sorti en 2009.
Et je vous fais un aveu, je la découvre cette version ce matin.
Alors c'est fait pour ça.
Ouais.
C'est
un cadeau.
C'est
super beau. Ouais. Super beau.
Bon, mais on va être obligé de passer à autre chose. D'ailleurs, ce sera avec vous. On va parler télé. Laurent Marsic.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, et s'il y a un truc à retenir ce soir, à voir absolument ce soir, en deux mots?
Plutôt du cinéma, avec un inédit et du patrimonial, vous allez voir.
À tout de suite.
Bonne matinée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL avec Jérôme Florin.
Et l'été, on lit des livres, on va au cinéma, on écoute de la musique, on écoute la radio bien évidemment, et le soir parfois on regarde la télé, Laurent Marsic.
Oui, télé nostalgie ce soir.
Ah oui, télé nostalgie.
Oui, exactement, avec d'abord les chaînes qui sont en mode rediffusion ce soir, comme sur TF1, avec la rediff d'épisodes de Camping Paradis, des épisodes qui datent d'il y a 2-3 ans. Mais ça marche, alors pourquoi s'en priver, tout simplement.
Et sinon, du cinéma sur les autres chaînes?
Oui, avec d'abord un film inédit à la télé sur M6, Les Dents Pipi et Oli, avec Louise Bourgoin et Arnaud Ducré. C'est une gentille comédie romantique avec un couple de colocs que tout oppose. Lui est un fêtard invétéré, elle, une maman divorcée et ses deux enfants. C'est un choc entre deux mondes.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Thomas au direct de New York. Laissez un message après le bip.
Tu m'expliques là? Putain, mais à moi, une mère de famille, en plus avec des enfants. Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins, putain. En plus, un garçon et une fille, hein, t'as cru qu'on était à Poudlard ou quoi? Eh, tu sais quoi, écoute-moi bien mon pote, primo, femme et enfant, ça dégage avant la fin de la semaine, c'est clair? Dozio.
M6, 21h05.
Et sinon, du patrimonial?
Exactement, avec un Claude Zidi qui vient de fêter ses 86 ans, c'était samedi, et qui réalisait en 1980 une comédie plutôt hilarante et un peu barrée qui s'appelait Les Sous-doués, sorte d'éloge à la paresse au cours Louis XV, institution privée qui cette année-là obtient les plus mauvais résultats au baccalauréat de toute la France. La directrice Maria Pacôme, bien décidée à inverser la tendance, en piste entre autres Daniel Auteuil, en lycéen plutôt inventif pour faire tourner en bourrique. La directrice, ça c'est sur TMC à 20h50. Dans la série patrimoniale, on change de registre sur Arte, 20h50 avec Gervaise, adaptation de L'Assommoir de Zola par René Clément, film de 1966 avec Maria Schell en Gervaise Macquart, remarquable, un rôle qui lui vaudra à l'époque un prix à la Mostra de Venise. Mais il y a surtout ceci en seconde partie de soirée, c'est mon préféré, c'est sur France 3, Le Grand Blond avec une chaussure noire, on l'a vu 150 fois, film d'Yves Robert avec une pléiade de talents, Pierre Richard, Bernard Blier, Jean Rochefort, Mireille Darc ou encore Jean Carmet. L'histoire est celle d'un musicien, Pierre Richard, qui malgré lui devient le jouet d'une rivalité entre deux pontes des services secrets français.
Je peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit Perrache. Un piège à con.
Et une musique inoubliable composée par Vladimir Kosma, qui me racontait il y a quelque temps ceci sur la création de ce générique, devenu un classique des musiques de film.
C'est lui, le grand blond avec une chaussure noire.
L'idée m'est venue, comme je suis en plus originaire de Roumanie et de ces pays-là, de faire une musique avec des instruments insolites de là-bas, la flûte de Pan et le cymbalum, dans le sens que l'espion vient du froid. Voilà comment est née cette idée-là.
Quelqu'un a essayé de m'accrocher une casserole aux fesses, c'est vilain.
Très vilain, monsieur.
Ce trafiquant prétend qu'il est en mission pour le service et comme il ne travaille pas pour moi...
Et comme il ne travaille pas pour moi non plus.
Alors pour qui travaille-t-il?
Je ne sais pas, monsieur.
Le Grand Blanc avec une chaussure noire, France 3, 22h30.